R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Okay, we have just over an hour. Valérie needs to leave at 12:30, so maybe I'm just thinking if someone has a specific question, maybe we take that right now so that we don't get carried away with a general discussion. Are there any particular questions directed at Valérie?
In English? Yeah, okay. First of all, wow. And second of all, you got to be kidding. I'm going to come up with brilliant comments. That was spectacular. And it's spectacular not because I necessarily agree with everything. In fact, there's many things I disagree with in part or perhaps in whole. But because the papers are so smart and they get to the heart of what I think the problem we face right now, both theoretically and practically. And Barbara's talk at the end nicely, I believe, summarizes the problem at the heart of Diego and Valérie's paper. That is, if I summarize initially very broadly, what can law do? But here, law now stretch between the virtual and the actual. That is, stretch between the state and the Western state and its extensions, its diaspora, its colonial reach and re-reach and re-reach and re-reaching. And something that, if you work in Australia with, in France, we Aboriginal sounds better than Indigenous, yes?
Yeah, sometimes.
We say Indigenous in Australia now, but Aboriginal is fine. What in most parts of Aboriginal Australia is called the dreaming, and indeed, often translated as dreaming is our law. Right. But at the heart of this difference between law and law, everything lies. And that's what I thought we could really talk about. Now, I think especially Diego and Barbara, but also at heart in Valérie in your paper, is can law, and here I mean really the history and diaspora in its imperial and colonial form, whether for me presented as something trying to account for the conditions we're in, i.e. not explicitly oppressive or not. Can law, how did you put it, Diego? Can law fracture, displace, if not erase, the divisions between non-life and life? And in the Aboriginal case, what does the dreaming law mean when that division was never relevant, right? And not relevant, I think, for very specific reasons that division, that the geontological imaginary that emerged in a multiplicity of ways, but centered on a difference between things in existence or that come into existence that can die. And so I'm going to, and i.e., if you can die, you can be born. And its ethics, its politics, or its morality centers on death. So extinction of the human, which is running all the way through Valérie, your paper, that the drama of human extinction driving this expansion of law into places it never thought it would go or could go, or and driving those to the people in Pachamama and elsewhere to maybe make an alliance with law, Western law. Whereas in, at least where we are, dreamings don't die. I thought you said that the stretch between the virtual and the action, dreamings don't die. They go underground, right? They might withdraw and become something else in the actual, but they don't die. There's no drama of extinction, although there's grief and pain in the realm of that transformation. If something goes underground, if a kid withdraws into suicide, but I think fundamentally a very different understanding of the virtual and the actual, which is not about life and death, right? So what happens when that law meets this law? The drama, the Western drama of extinction, of potentiality, of death, of finitude, etc., and a very different ethics of holding on to a virtual bidingness as one has to be creative in the actual, which I thought you put so very well. So I think that's really at the heart of what these papers are about. I myself worry that, and this is to Valerie and to Diego, worry more, though Barbara come in where, worry that the question that centers Western law in these moments is a question of what can Western law do? Right. Can it, can't it, i.e. how can it be transformed such that it can solve the problem of human extinction? Insofar as we're asking what Western law can do, we're not asking what can be done to it, i.e. why are we asking about that? Why aren't we asking what can the dreaming do? And thus, the kinds of questions that emerge, Diego and Valerie, in your papers are very much state-ish questions. The diplomat. In order to have a diplomacy, everyone has to have a state function. It creates a state effect. Could we have diplomats in the dreaming? Do we have diplomats? Well, I just don't think it makes much sense to have diplomats.
Well, you have negotiators.
You have negotiators, but you also have, I mean, I thought what in this where I was hoping we could start with conversation. The way we put it in Kotobing is that, and a lot of resonance is what you said, of course, like if that dreaming is hurt, I am hurt, right? But one of the things Kotobing is doing is trying to displace the, and here we're law and law, so I'm going to say dulk dreaming, that's the way we say it, and law. Displace this idea of law in which things have already, or sacred sites have already taken on the qualities and properties of persons. Because at least in Kotobing, the ability to be this dulk is originally as it's related to its encounter with another. So it's not in the beginning what was it, but in the beginning what was the relationship between it, and between it and other places, between it and people, between it and, right? So you have more of a loop, right? So there's an insistence that one has their, what we say in Creole, roan, my own dreaming, but they are originally all connected, right? Now that can sound like, I think, what Pachamama's doing, but Pachamama becomes, as you say, a different kind of sacral. It becomes a god. And we don't have, how do you, what's a, there's no god, right? So, and if I'm Marx, poor Marxist, I mean, we, you know, on the Jewish question, it's like, that's a state effect as profound as any other, to institute a god. And so the first thing I was hoping we could do is this question of personhood. In dreaming, dulk, or how you guys put it down there, in there, and...
Elizabeth, I think that I will have to leave soon.
Oh, yeah.
I would just like to say one thing that is like something in between. Is it okay if
would
I
you
speak
take
English or you prefer in French?
I can do it, yeah.
Maybe take the microphone.
Or maybe you need your thing.
Yeah, either way.
Okay. Voilà. En Australie, il y a eu un jugement récent. Pas l'histoire de reconnaître comme entité vivante la rivière, mais un jugement récent, donc à Timber Creek, dans le territoire du Nord, où il a été reconnu la souffrance spirituelle pour rupture de liens culturels à deux groupes d'aborigènes. Et ce processus rentre dans un type de juridiction de demande de compensation, de réparation, donc pour une histoire traumatique, qui est aussi quelque chose qui existe dans les demandes de reconnaissance d'écocide. Et donc, ça a été commenté dans les médias comme une victoire de reconnaissance pour les aborigènes parce qu'ils ont reçu 1,3 million en compensation. Je pense que ce tournant est vraiment à l'articulation de la réserve que tu as, Elisabeth, vis-à-vis de la loi, parce qu'on pourrait penser, oui, on reconnaît l'histoire coloniale, l'impact qui a été fait terrible sur l'histoire des aborigènes, mais en même temps, on vient affirmer par la loi que leur lien à la terre est coupé. Or, si je peux dire ce qui m'a motivée à faire ma présentation, et donc de partir en guerre contre la figure du désert sans vie, c'est que pour les aborigènes, ce lien est vivant et inaliénable. Et que c'est extrêmement important de ne pas rentrer dans un discours victimaire, et ça c'est vrai pour des tas d'autres situations, pour qu'on puisse continuer à avancer. Parce que si on raisonne de manière victimaire, en faisant reconnaître par la loi que la réparation, c'est de l'argent, on capitalise toute notre existence, qui est déjà sacrée.
That as I have a lot of time, I wanted to comment and to give my... But you can first, if you want, no problem.
Similarly, I'm going to hear myself in French. Similar cases, another case, for instance, was the case of two women sitting down that was damaged by a big multinational corporation. And it consisted of, from a Western point of view, two rocks composed of manganese and then all around very, very... undiluted manganese, how do you say it in, I don't know. And there's a legal commission or an Aboriginal commission that is called the Aboriginal Areas Protection Authority, or what we call sacred sites. And by law, they're the most open, i.e. it's not just traditional owners, but any Indigenous person affected or in relation to that place. But by law, they have to recreate a sacred site into the qualities of a person. So fundamentally, that is a border, a skin. It's outer limit. Like, where is it? And this is why Pachamama is a sacred, it's interesting. But so the mining company said, okay, well, that's its skin, so we're just going to cut straight down. And they cut so far down, part of two women sitting down fell into it. And for the first time, the director of Sacred Sites sued the corporation. Now, they sued it for defamation, not murder. So on the one hand, I hear you. I have written, like, why, if not murder, what about attempted murder? right? But it's exactly here that you I see the appeal of the practical, right? If we could sue for murder or attempted murder, what would the stakes be versus defamation? But it's exactly that moment that you reinstall the judge, state law, as the arbiter, right? And you turn the modes of existing with, belonging with, away from itself and toward the West. And here I cannot help but feel like, you know, the nomos of the earth was never actualized in 1492. It's still being actualized. And the creation of natural rights on the model of human or personal rights is merely the extension of the nomos, which is a Western nomos. And that is perpetually my worry. But I get the practical. It's like, well, what are you going to do? And I say, well, like Katabing insists on staying out. It insists on saying no. And we work with sacred sites. For instance, we work with sacred sites, these legal organizations, to try and register these sacred sites. But we do it in a way, and this is the indigenous like Rex, do it in a way that says, we insist in saying the conditions of this thing being in place is having these other places continue in place. Now, the extension of that would be quite interesting because it would be a world of Roan and connected. That is, it wouldn't be the choice between either the abstract sacral that encompasses everybody the same, nor would it be simply individuals encountering each other as persons.
Forcément, j'ai plein de choses à dire, plein de commentaires. Mais en fait, comprenez-moi bien. Je vous rejoins complètement dans l'idée que reconnaître une personnalité juridique à des éléments de la nature ou reconnaître les droits de la nature dans le droit occidental ne poursuit pas forcément une volonté de population autochtone, voire même, elle est parfois totalement incomprise. J'en ai énormément de témoignages. Je pense par exemple à Casey Orinek Camp, qui est une des leaders qui est dans le mouvement mondial des droits de la nature, la Global Alliance for the Rights of Nature, et qui a obtenu que depuis l'année dernière, une constitution retravaillée par la nation Ponca en Oklahoma, reconnaissant les droits de la nature. Et pourtant, elle était à Cochabamba en 2010, elle suit tout cela depuis très longtemps. Et j'en ai discuté avec elle. Et il est évident que... Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de donner des droits à la nature, mais de les reconnaître. Et pour la plupart des populations autochtones, ça n'a juste pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. C'est-à-dire que la nature... C'est le tout, on en fait d'ailleurs partie, et elle a tout simplement, elle a des droits parce qu'elle est là, parce que elle n'a pas besoin qu'on nomme ces droits-là. Ils sont évidents, ils sont intangibles. Mais ce que je trouve intéressant dans le mouvement des droits de la nature, c'est pas tant de donner des outils forcément à des peuples autochtones pour défendre leur site sacré, c'est de donner finalement, d'arriver à transformer, à refaire prendre conscience aux Occidentaux en Occident. C'est pour ça que je mène ce plaidoyer en ce moment en Europe surtout. De leur, finalement, de leur place dans le monde, de mettre en mots, effectivement, avec des termes juridiques, ce que Barbara a expliqué par rapport à cette quête qu'il y a de plus en plus spirituelle, de reconnexion à la nature, de syncrétisme autochtone et religieux que l'on retrouve chez beaucoup de peuples et qui ont besoin d'outils, véritablement, pour protéger les éléments de la nature. Et le côté... anthropocène, le fait de dire l'humanité est en danger, etc., c'est aussi une stratégie. Dans le sens où, et ça depuis 7 ans, je suis obligée, moi, d'évoluer, de travailler avec ça. Dans le sens où reconnaître des droits de la nature n'a pas vocation du tout en soi à protéger l'espèce humaine. Au départ, c'est pas du tout cela dont il s'agit. C'est juste de replacer l'humain à sa juste place et de normer. Voilà. En revanche, si vous voulez vous adresser à des législateurs, puisque là, hier, une proposition de loi sur le crime d'écocide vient d'être présentée par un groupe au Sénat, de manière totalement opportuniste, électoraliste dans le cadre des européennes, dans une pensée occidentale qui est complètement anthropocentrée, et pas que en droit, en tout, si vous ne mettez pas dans la balance la survie de l'humanité, vous n'obtenez rien. Et aujourd'hui, la science nous permet de prouver que tout le monde est en danger et l'humanité avec. Mais en soi, moi, c'est pas... Je veux dire par là, je vais... J'étais en novembre à la rencontre des Wurundjeri dans l'état du Victoria, à Melbourne, et j'ai aussi rencontré les Maoris en Nouvelle-Zélande. Et je discutais avec une vieille Maori qui a fait le tour du monde et qui a énormément parlé, puis je lui disais, voilà, je veux faire un film sur les droits de la nature et je voudrais donc montrer en image ces lieux, ces écosystèmes, ces sites sacrés qui ont été reconnus comme des personnes et faire dialoguer les communautés, les juges, etc., qui ont accepté ou qui ont porté cette demande avec ces écosystèmes. Et elle me regarde et elle me dit « Mais pourquoi faire ce film? Je ne comprends pas. » Alors je lui dis, mais parce que les Européens ont besoin de d'abord pour passer à l'action et arrêter le libéralisme tardif et ses exactions, a besoin d'émotion et a besoin de se reconnecter à ce lien essentiel avec la nature que vous avez toujours. Elle me dit, mais moi j'en ai rien à faire que les Blancs finissent par crever de leurs conneries. Et elle me dit, mais nous, on est un peuple semi-divin. On est directement en lien avec le cosmos et avec la Terre. On n'a pas peur de la fin de la fin du monde. On n'a pas peur de l'extinction. Et forcément, je l'ai pris en pleine figure. Et je trouvais ça excellent en même temps. Voilà. Mais il faut bien comprendre, dans ce que j'expliquais tout à l'heure, que ce n'est pas une stratégie pour convaincre les peuples autochtones ou pour convaincre les communautés amérindiennes d'utiliser le droit pour mieux se défendre. C'est plutôt comment nous faire arrêter dans nos pays les multinationales, lever cette impunité à travers notre droit pour les empêcher d'aller là-bas faire leurs conneries, si je puis dire. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Mais c'est vrai que c'était pas très clair parce que je connaissais pas le contexte du colloque. Voilà. Je voulais juste clarifier cette chose-là. Et par rapport à l'État... je suis moi qui suis contre la souveraineté nationale, qui le dit haut et fort dans les milieux politiques, qui suis contre la propriété privée. Je suis en dissonance cognitive, comme on l'est tous en permanence avec tout ce que l'on fait et ce que l'on dit, entre les superbes tablettes. Hein? Yes. Et je comprends très bien ce point de vue de dire utiliser le droit, surtout un droit occidental, c'est utiliser finalement un principe qui institue l'État, qui va dans la continuité de la pensée de Kant et de l'État comme forme supérieure et l'expression de la liberté des hommes. J'en ai tout à fait confiance. Mais c'est vraiment de jouer avec des paramètres qui sont complexes. Je l'assume totalement.
Valérie, c'est possible de développer sur la différence en Australie du cas de la rivière Birrarung, qui n'est pas une reconnaissance de personnalité juridique, mais d'entité vivante?
Oui, les représentants Wurundjeri que j'ai rencontrés donc à Melbourne et qui ont donc eu la possibilité d'expliquer leur position donc au Parlement. Et alors pour le coup, ils étaient extrêmement flattés et touchée d'avoir pu s'adresser de façon très officielle. Les Wurundjeri, on en parle très peu, hein, c'est un peuple aussi côtier, c'est un peuple qui vivait près de la rivière, qui, comme les Maoris, explique que la rivière est leur ancêtre, hein, et qui sont vraiment un peuple invisible, qui a été noyé littéralement dans l'urbanisation de Melbourne, qui est une ville absolument immense. Et pour eux, c'est déjà énorme d'avoir pu faire reconnaître la Wurundjeri, la Birarung, donc la Yarra River, comme les appellent les Australiens, comme une entité vivante de sa source à son embouchure, et comme véritablement, non pas seulement le territoire ancestral des Wurundjeri, mais le lieu où s'incarne leur spiritualité, leur tradition, leur histoire. Et c'est très secondaire pour eux, pour l'instant en tout cas, de demander une personnalité juridique. Pourquoi ? Parce que comme ils ne dissocient pas du tout leur identité à celle de la rivière, ils considèrent qu'ils peuvent défendre les intérêts de la rivière en justice s'il le faut le faire, sans avoir besoin de parler au nom de la rivière. Ils sont la rivière. Et la rivière est eux. Pour autant, les Maoris, qui disent la même chose sur la Whanganui, qui disent « nous sommes la rivière et la rivière est nous », voient véritablement un intérêt à lui donner une personnalité juridique. Et parce que ils ont vu, et moi c'est ce que je défends aujourd'hui dans cette approche, l'aspect préventif qui peut être posé, dans le sens où, et c'est ce qui s'est passé avec la ville Kabamba, en Équateur, une rivière qui est par exemple menacée par un projet industriel ou qui commence à être endommagée par un projet de route, c'était le cas de la ville Kabamba, peut saisir à ce moment-là la justice et demander au juge de défendre son intérêt à exister, ce qui permet au juge de poser des mesures conservatoires, c'est-à-dire d'arrêter le projet en amont. À l'heure actuelle, on a un droit partout dans le monde qui est un droit de réparation, de restauration. Comment restaurer un écosystème qui a été détruit ? Comment restaurer une spiritualité qui a été... ça ne veut rien dire. Et même le préjudice écologique en France, qui est une avancée juridique, c'est-à-dire qui a reconnu la valeur intrinsèque d'un écosystème, ne peut intervenir qu'après le préjudice, qu'après la catastrophe. Donc pour moi, la reconnaissance de la personnalité juridique d'éléments de la nature a une visée avant tout préventive.
I deeply appreciate, and again, this is where I say the practical question when your addressee is the colonizer. But at least for me and my colleagues in Kottabing and elsewhere, that's the problem, because the heart of the issue is colonization. And I'll give a very simple kind of anecdote. During the height of land rights in Australia, in which the government recognized, oh, we were wrong, this was not terra nullius in the sense that there was a desert of law and sociality, but there were these laws that they called dreaming that continue, and therefore we recognize it under a particular conservative anthropological model. And it centered the judge, or in this case the law commissioner, is that person who would adjudicate, of course. And that is the extension of colonialism. So there was we were engaged in this big land claim just outside of, I'm listening to myself in French again, outside of Darwin, I mean, in this, where Bellion is. And I was talking, well, it wasn't just me, it was me and the older folks who are now passed away, to the lawyers representing them, and we were saying exactly that. You know, this mechanism of recognition is a mechanism of colonialism's extension. And these nice lawyers, they were working pro bono, they're good people, right? There are. But they said, well, but if someone, who's going to adjudicate, if the land commissioner, who is outside of these, not right, not this system of rights, but these systems of co-constituted corporeal obligation, not rights, who's going to decide? How would we do this? And I quipped that day, I got a good idea. Everything that hasn't been stolen is now indigenous. And you white people can keep what you stole. What about that? And you could just see them shake a little bit. And these are good people. Of course they're good people. But what was causing them to shake is not their badness, but that it was cutting at the heart of a colonial extension in recognition. And thus, the practical, I can never give in to the practical. And my Cotabang refused to give in to the practical because the practical says to them, it's the only way you can do anything. And they are more like the Maori. It's like, fuck you. If we're all going to die, or you get to extend yourself further, we all die. Because we don't die anyway. We don't. We struggle to keep a form of obligation that exists both enduringly in the virtual and as you say, so beautiful, in contextualization and the actual. We strain to keep that alive. That's what we do.
Donc c'est pas tout à fait une question, mais c'est une prolongation de la discussion. Moi, je suis très intéressé et impressionné par les contenus des exposés qui posent des stratégies, et là on parle en ces termes-là, des stratégies, mais aussi qui s'opposent, et là ça a été souligné par Barbara et par Elisabeth, à des imaginaires des stratégies. C'est-à-dire qu'on est forcé d'accepter certaines stratégies qui viennent de certains imaginaires. Et l'un des dommages collatéraux qu'on n'a pas cité, en pensant une forme d'extériorité à l'Occident, pour moi, c'est la refabrication de l'Occident. C'est de nouveau, en fait, le fait qu'on doive accepter, moi en tant qu'antillais d'un temps occidental, ce qui m'embête un peu, et qui est cette espèce de fondation of the West, qui est toxique. Et pour moi, l'opération qu'on doit faire, elle est double, c'est-à-dire qu'on doit aussi disloquer l'invention de l'Occident comme étant une invention commune aux Occidentaux, ce qui n'est pas vrai, il y a des négations internes à l'Occident qui peuvent justement trouver leur résonance dans un nouveau rapport, ce que j'appelle moi le corps-paysage, c'est-à-dire une nouvelle manière d'être qui existe en Occident, qui a été niée, qui est détruite dans les traditions qu'on peut trouver dans plein de cultures, de régions d'Occident et évidemment dans l'histoire coloniale qui a réimporté des extériorités dans l'Occident et notamment effectivement poursuivre Gilroy, une histoire noire de l'Occident qui fait qu'on a un peu du mal à être des Occidentaux comme les autres et qu'on aimerait bien justement que tremble l'Occident dans notre rapport à l'autre, entre guillemets, qui n'est pas un autre en réalité. Et donc, c'est vrai que j'ai l'impression que dans ce rapport juridique stratégique, on refonde une sorte d'inquiétude occidentale qui ne tient pas compte des classes sociales, qui ne tient pas compte des genres, qui ne tient pas compte des races. Moi, personnellement, non, mais pas assez, parce que je pense qu'à un moment donné, quand on dit, quand tout va s'effondrer, quand tu grandis dans des endroits, et c'est mon cas, de déserts urbains, de banlieues, on dit, mais que tout s'effondre, comme ça tout le monde sera à notre niveau. On ne dit pas, on va sauver, non, on ne va pas sauver. Et effectivement, cette espèce d'affect qui a l'air extrêmement négatif, extrêmement afro-pessimiste, il a une forme de positivité. Il dit, mais que votre monde s'effondre, mais nous, on l'attend et on a envie, quoi. Et on a envie d'être dans ceux qui vont pousser pour que ça s'effondre. Donc, l'idée même de sauver quelque chose n'est pas une idée, en fait, qui est finalement une vraie agency, quoi. C'est pas ça, c'est pas là. C'est l'idée de se dire, on va en finir avec ça. Et grâce à ça, on en finit avec ça. Et je pense que l'idée même à laquelle on doit s'attaquer, c'est effectivement, c'est ne pas une refondation d'une forme de responsabilité coupable du corps blanc occidental, qui nous impose bruyamment ses pleurnicheries et qui reste de ce fait au centre des préoccupations. Le décentrement, c'est dire arrêtez un peu de pleurer tout le temps, ça va, quoi. On vous a déjà assez entendu, quoi. Triompher, pleurer, on est le spectateur de vos vies depuis trop longtemps. Donc maintenant, on est en train de discuter, y compris de manière périphérique, entre périphéries, on est en train de faire des choses et qu'il va falloir que vous trouviez votre place à la table. Parce que ce n'est pas à vous de dire quelle est la table, ce n'est pas à vous de dire quand est-ce qu'on... Il va falloir que vous trouviez votre place, quoi. et que cette question de trouver sa place, on va la partager tous, et c'est une responsabilité collective pour le coup, mais on ne vient pas du même endroit pour trouver sa place. On a tous à trouver notre place. Et donc, du coup, on enlève les privilèges dans les deux sens, c'est-à-dire des privilèges qui seraient hégémoniques, comme des formes de privilèges minoritaires que refondrait une espèce de bonne conscience en disant « Oh, vraiment, on vous a massacré. Franchement, c'est vraiment pas bien, parce que vous êtes vraiment mieux que nous. » Ouais, mais ça, non, quoi. Parce que c'est aussi à des personnes qu'on parle. Donc, et je pense que c'est voilà, cette idée de refonder une espèce d'Occident, je me demande comment on peut décomposer cette idée de l'Occident en même temps qu'on fait ce geste-là. Voilà, merci.
Je vais répondre en deux minutes, mais je vous suis complètement. Et là aussi, je veux que vous saisissiez bien l'enjeu. J'ai absolument pas la naïveté de croire que le crime d'écocide ou les droits de la nature vont tout d'un coup entrer dans le droit occidental comme une solution pour que le blanc occidental se dédouane ou de tout ce qui s'est passé et... Absolument pas. En revanche, ce courant-là est aussi traversé par le courant de collapsologie. Et donc, il est très évident. On me dit souvent, mais donc vous êtes collapsologie. Vous pensez qu'on va avoir le temps de se transformer et vers quelle société ? Alors, vous la voyez comment, la société de... Non. Non. Ok, c'est même pas une croyance. Enfin, je veux dire, ça va se casser la gueule. C'est clair. Donc, le rôle dans lequel je me pose, parce que pour le coup, et j'étais très touchée quand Barbara parlait du dreaming et de la souffrance que l'on peut parfois ressentir. Enfin, en tout cas, que les peuples aborigènes disent ressentir comme étant directement, finalement, une incarnation, une émanation de la terre. Ou moi, c'est quelque chose qui me parle, que je ressens, subjectif ou pas, j'en sais rien. Je c'est même pas la question. Et c'est ce qui m'anime. Mais je crois que pour recomposer le monde de demain après l'effondrement. Notre rôle, là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est quand même de ce que j'appelle semer des graines de résilience, c'est-à-dire amener quand même sur la table, on a ce luxe-là extraordinaire, on n'y est pas encore, nous. Il y a des peuples dans le monde qui y sont déjà dans l'effondrement. On n'y est pas, hein. On peut avoir peur, mais on est quand même encore hyper, hyper privilégiés. Et donc, on a ce luxe-là de pouvoir se causer, de pouvoir débattre, de pouvoir semer des idées. Et ça vous paraît peut-être évident, mais de parler des droits de la nature, ça décentre pour beaucoup de monde, ça les oblige vraiment à se voir autrement et à penser autrement. Et c'est pas pour rien que quand des gilets jaunes ont rejoint les marches climat, c'est pas pour rien que le mouvement de la justice climatique s'est affirmé comme un mouvement de justice climatique et sociale, c'est pas pour rien qu'on essaye constamment de faire le lien entre inégalité sociale et inégalité environnementale. C'est parce que, au fond, il y a la même, le même constat que celui que vous venez de faire, mais pensez que voilà, il y a des personnes qui ont vraiment besoin, pas s'approuver dans une situation de confrontation et de lutte, parce que beaucoup de gens vont se replier sur eux-mêmes quand ils se sentent attaqués ou en danger, mais plutôt dans une reconnexion émotionnelle. Au principe unitaire de vie qui nous relie tous et qui fait qu'effectivement l'autre est aussi moi, ce que vous disiez aussi en parallèle. Mais j'entends très très bien ce que vous dites, vraiment. Je suis désolée.
Yeah. Can I say just one thing? Oh, you have to run.
I really have to.
Oh, go. Well, no, it's very quick on the. It, I think it follows up, and it's very quick on collapsology, which. I have not heard that phrase, but if you go around, there are endless conferences now on at the end, after the end, coming to the end. And one of the things that Olivier Barber, and perhaps I'm also saying, is that it's, for many, many people, the end came long time ago. And they have been living in the wake, to use Christine Sharp or Morton Robertson, they've been living in the wake after the end and having to think very carefully and practice, not just think, practice how you are not victims. You might feel, but you're not a victim. How you, your obligation to continue the connection after the end, right? And here, for me at least, I think of this in a kind of critique of a little bit of Foucault, like how do we, what is critique? To be governed other than this. But for many, there's a doubleness, and I think this was Olivia. There's, if you want, the collapsology of a form of colonial governance that I call Giantabauer. But there was always, if you're like indigenous, there was always, how do we not be governed by you, and how do we keep governing ourselves otherwise? So when it collapses, poof, the strategies by which we've always been since whenever, 1492, 1788, you go into this, whatever it is, how do those strategies now come into play in a flourishing way? So it's, yeah, that's exactly Olivier. But I feel like this thing we all share, we don't all share it. We don't all share at all. At the same time, we're connected to this bigger thing. That's, so I think maybe elaborating or maybe just...
Ben, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Il faut juste penser à toutes les populations qui n'ont même pas, qui ont un, perdu cette capacité à s'imaginer dédouanées et déconnectées des lois occidentales et qui sont déjà dans la souffrance. Et c'est vrai que ce qui m'anime, c'est vraiment d'essayer de répondre quand même malgré tout. Je comprends intellectuellement très bien, mais émotionnellement, pour moi, il est important de chercher quand même des solutions pour que chaque vie compte et que ces personnes-là souffrent le moins possible. Parce qu'on parle beaucoup des peuples autochtones, mais de façon générale, et je suis une des premières défenseuses de leurs droits, mais de façon générale, la situation actuelle du monde met sur la route des centaines de millions de personnes. En Afrique, en Asie du Sud, et je crois que on a ce luxe de pouvoir commenter, mais il faut aussi tout faire pour arrêter l'extractivisme, arrêter l'exploitation des territoires, des terres et préserver de la souffrance un maximum de personnes. Et c'est une ce n'est pas la stratégie.
C'est pour dire qu'en même temps que le geste dont vous parlez, qui est vraiment, on est aussi tous d'accord, je pense, aussi, je dis que dire d'autres formes de vie fait partie d'une forme curative et rituelle de notre projection vers le futur. Si on oublie de dire, par exemple, en banlieue, en France, dans les zones, on oublie de dire les formes de génie, de survie. Et si on oublie de les dire, on ne parle que qu'une espèce de misère, de sous-homme, de sous-humain. Et c'est pas vrai. Et donc, il ne faut pas fantasmer d'une part, mais il ne faut pas non plus oublier de dire les micro-formes de vie, associations de femmes ici. Moi, je vois sur les violences policières comment des mères ont dit il faut redonner des noms à nos enfants, qui est un rituel incroyable et qui porte pendant des années des noms. Le comité Adama en est un. Ben, ces gestes-là, quand on les dit, c'est aussi des gestes d'espoir.
Can we just thank Valérie and let her go? I'm going to step in as moderator here because this is great and we could keep going for another hour. Diego definitely needs to say something. And then I think we need to open this one question already there. I'm sure there's going to be lots of questions, so I need to control you all a little bit.
Okay. Yep. je vais reprendre cette idée, effectivement, que le droit est porteur d'une catégorisation du monde. Le droit, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, à une capacité ontologique inhérente à son activité. Elle instaure des choses. Il y a des mythologies qui se créent à travers le droit. Et donc, effectivement, il y a un colonialisme inhérent au droit. Et ça a été démontré par plusieurs affaires. Alors, bien sûr, je partage à 100% et sans aucune réserve, le fait que effectivement, il faut protéger, enfin, en tout cas, non, il faut pas protéger, mais en tout cas, il faut faire attention à ce que ces régimes que défend Valérie, et je suis complètement d'accord, qui vont catégoriser le monde, qui vont imposer des catégorisations malgré tout, à minima du monde, qui peuvent ne pas convenir aux gens à qui elles s'adressent, etc. C'est quelque chose d'important. Mais il y a quelque chose que moi je vis régulièrement quand je vais en Bolivie. En Bolivie, il y a depuis quelques années des intellectuels Aymara qui viennent de subir ou de vivre un exode rural et qui sont dans l'université publique et qu'on n'entend nulle part et qui, eux, ont un accueil très original de la pensée décoloniale et des réflexes décoloniaux qui ont été lancés et qui disent, en fait, il y a une première étape où effectivement l'Occident nous imposait des instaurations ontologiques. Le monde, il fait comme ça, ça c'est une personne, ça c'est une chose, etc. Donc on distribue les entités, et voilà. Maintenant, il y a une nouvelle phase qui est portée, et notamment par des intellectuels aymara aussi, pratiquement, qui sont partis aux États-Unis, etc., qui, bien sûr, dans un réflexe naturel, deviennent des intellectuels du décolonial, d'accord, et ils transmettent l'idée que, attention, Ne vous faites pas ontologiser, encore une fois, par le droit, par l'art, par le truc, etc., etc. Et ils disent, bon, du coup, en fait, moi, j'aurais jamais le droit d'ontologiser ma vie comme je veux, parce que ce soit dans le décolonial ou dans la colonisation, il y a un moment donné, soit c'est des figures imposées, soit c'est des restrictions. Fais attention, n'utilise pas le droit, parce que le droit va t'ontologiser la tronche, et du coup, tu vas... Donc je pense qu'à un moment donné, ce qui est intéressant, et je pense que c'est quelque chose qu'on débat souvent avec Marco et avec des collègues d'Origens, c'est qu'à un moment donné, il faut reconnaître et assumer et penser la finitude de justement l'ontologie, c'est-à-dire la capacité de la pensée scientifique, académique, universitaire à distribuer les qualités du monde, etc., à travers toute une série d'actions, de colloques, de séminaires, etc. Et je pense que la seule issue à cela, c'est effectivement d'assumer le fait de donner totalement la possibilité aux collectifs du monde entier de pouvoir composer eux-mêmes leur Dieu, composer eux-mêmes leur cosmopolitique, etc., y compris des cosmopolitiques, comme je l'ai vu, de négociations et de diplomatie avec des cosmologies venant de l'Occident. Donc c'est ça que moi j'ai essayé de montrer avec le cas bolivien, c'est qu'il y a eu une phase de décentralisation. C'est pas Latour, c'est pas Stengers qui est arrivé à dire « Bon, maintenant je vais organiser, les gars, les modes d'existence, vous allez voir, cette fois-ci, ça va marcher, ça va être génial, quoi. » Ou c'est comme ça qu'on va reconnaître tous les collectifs humains et non humains et on va composer avec. Ça se passe à Sciences Po, mais ça se passe pas dans les assemblées constituantes. Dans les assemblées constituantes, ils ont dû spontanément négocier quelle est la dose et les gens qui ont participé et savaient très bien qu'une assemblée constituante avait vocation à ontologiser les choses, mais malgré tout, ils y sont allés parce qu'ils avaient soit des intérêts, soit des stratégies, bref, soit aussi des protections qu'ils pouvaient négocier. Et je pense que ça, c'est quand même un truc qu'il faut bien... Et la deuxième chose qu'il faut assumer, c'est la fin de l'activité de recherche, moi, je pense. C'est là où il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'on parle de fermeture de monde. Si à un moment donné, et je pense que dans l'idée discrimination positive épistémique, qu'à un moment donné, la pensée décoloniale proposait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Occident, peut-être, devrait initier une phase où il arrête de penser, il arrête de faire de la recherche, et se laisse, d'une certaine manière, ontologiser par les autres et voir ce qui se passe. Parce que je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qui se joue aussi. Moi, je pense que dans l'activité de recherche, de manière inhérente, même si effectivement le pragmatisme, la pensée décoloniale, l'ethnographie ont évolué pour ne pas tomber dans ça, mais il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus.
Merci beaucoup. Je vais peut-être rajouter juste parce que pour le coup, ma question devient un commentaire sur ton commentaire. En fait, la question que je pose, en tout cas, est la suivante. Et la partie qui est plus intéressante dans le débat sur le droit, c'est tout ce qui dépasse le droit, tout ce qui ne peut pas être saisi par le droit. C'est-à-dire qu'il y a Il y a un moment, quand Elisabeth a présenté les films l'année dernière, elle a parlé donc de transmission, but not translation. Et j'aimerais bien garder l'idée sur deux parallèles, la parallèle de la transmission en fait, et la ligne de la transmission et la ligne de la traduction. Et je crois qu'effectivement, le droit, c'est une ligne de traduction qui se double, qui double les expériences du monde de manière imparfaite, et imparfaite pour beaucoup de gens. Je veux dire, on le voit quand on vient des expériences queer, féministes, je veux dire, on voit très bien à quel point le droit ne peut même pas s'imaginer d'être capable de traduire un quart de l'expérience de vie des gens. Voilà. Et on s'en accommode, parce que de toute façon, on sait que l'expérience, elle est à part. À part. Et donc, je crois que c'est là où je trouve le truc intéressant, c'est le fait que le droit puisse être un instrument défaillant, limité, mais que, voilà, là où il faut être très modeste, c'est garder à l'esprit qu'il sera incapable, de quoi que l'on soit, de traduire des espérances de vie. Parce que l'autre question qu'il faut soulever est, par exemple, parmi les figures justement qu'évoque Elisabeth, hein, c'est notre cher ami P. Noxus, hein, quel est le niveau, où se situe le droit d'un point de vue de P. Noxus, là, de ce champignon. Voilà. Donc, il y a un moment où il faut décider où est-ce qu'il est.
Yeah, really to pull Barbara into conversation too, because I, as a kind of working analytics, I like that the translation machine versus a transmission that also refuses, is more like a virus. It's not interested in translating. If you get it, then you're deep enough into the location. If you don't, then you're not, right? In relation to the film we're going to show today, you see that, I think we're showing mermaids. We're definitely showing mermaids, yeah. And there were 9 of us traveling around the US, and the question always came to us about the sound and the identity of certain actors in the film. Like, what was their identity? How were they related to anything? And did we care that many, many people would not know? And the answer that everyone gives was, no, we don't care. We don't care. If you know, then you have obviously been within these worlds of relationality such that you get it. And if you don't, you obviously aren't. And you should feel that. You should feel your distance, right? And if you want to, then, and here's where I'm interested in what Barbara might have to say, then you don't explain your ontology, but you become relational in a specific way. So I was interested in what, like, at you and to me, what the Walpuri think, but the demand is not, what are you, you foreign entity, but can we make you, can we stitch you into a obligatory relation vis-a-vis kinship, vis-a-vis dreaming, vis-a-vis all kinds of things in which you're not explaining you're outside, but you're allowing, you're acceding to the demand that you become wrapped inside in a different way, right? So that you become, I don't know, what do you guys probably have skins, but you become part of the long yam dreaming or the manganda, the orphan dreaming, and thus you have these relations, which is a different thing than than making ontology the question of being in the center. So I was wondering what you would make of that, and it has to do with transmission as relationality, original in the Deleuzean sense, versus translation, which is for me more about being in itself and what are you and how do we translate between these incommensurate or commensurate states.
I would like to also say something about something that you said before, en français, donc
Il y a quand même dans le rapport à la mort quelque chose de et de la fin du monde, quelque chose qui a été vu particulièrement dans le nord de l'Australie, dans le Kimberley, chez les Nyarinyin et les Wunambal, qui font des peintures rupestres avec de grands visages, des yeux sans bouche, où dans les années 50, ils ont décidé de ne plus rêver d'enfants. De ne plus rêver d'enfants. Parce que, comme n'importe quelle naissance est annoncé en rêve, ça ne veut pas dire que, comme il a été dit dans l'histoire de l'anthropologie, les aborigènes ne savaient pas comment on fait des enfants, mais que ça ne suffit pas d'avoir une relation sexuelle, il faut aussi que tout le monde s'y mette, et que ce sont des proches parents qui voient en rêve d'où, de quel lieu vient l'enfant. Et ils ont décidé de ne plus avoir d'enfants, c'est-à-dire de ne plus les rêver, parce que leur rêve était trop plein de choses extérieures au monde d'avant. C'est-à-dire que dans leur lieu de référence, qui en l'occurrence était la forêt, il y avait trop d'objets de consommation, des bateaux, des avions, des visages de blanc, des fusils, des scènes de massacre, enfin, tout ce qui faisait la colonisation. Okay ? Et ça, c'est intéressant parce que, je donne cet exemple du Nord-Ouest, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, aujourd'hui, dans le rapport aux morts et aux suicides et aux accidents de voiture qui touchent beaucoup de jeunes, où les gens vont dire, ils ont une peine énorme, mais ils vont dire, il n'y a plus de place, hein, on parle de place, il n'y a plus de place pour les jeunes. Bon, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais il n'y a plus de place. Et puis finalement, si on boit, si on se drogue, si on... c'est aussi parce que, voilà, il n'y a plus de place. Hein. Donc, pour revenir à l'histoire de traduction-transmission, je pense que, bon, Valérie est partie, mais peut-être qu'une des raisons pour lesquelles les Maoris en Nouvelle-Zélande étaient intéressés par la reconnaissance de la personnalité juridique, et c'est ce qui, je crois que c'est Diego, tu parlais de ça tout à l'heure, en fait, eux, ils ont signé un traité en tant que Maoris au moment de la colonisation. Donc, ils sont reconnus comme des partenaires de négociation, pratiquement en termes de souveraineté sur le papier, en termes de horizontal. Et donc, aujourd'hui, toutes les nouvelles démarches juridiques font toujours appel à eux face à l'État. Hein ? Donc ils peuvent être dans une relation diplomatique parce qu'elle s'est instaurée comme ça au moment de la colonisation. En Australie, les aborigènes n'ont pas eu de traité, mais il y a des aborigènes, pas forcément tous, qui continuent à demander au niveau législatif la reconnaissance d'un traité qui les reconnaisse comme souverains. Même, hein ? Et je pense que ça, c'est partagé par beaucoup d'aborigènes. Hein? Et donc, comme si la transmission pour le futur de leurs enfants, hein, et c'est porté par Yothu-Indy, Treaty, hein, voilà, passait par cette traduction-là, qui est un autre niveau, hein, du traité. Hein, du traité. C'est-à-dire d'abord un traité. Une fois qu'on aura le traité, eh bien, on pourra mettre sur la table des choses. Dans les termes, peut-être, voilà. Sauf que, comme tu l'as dit, Elisabeth, il y a eu toute l'expérience des droits à la terre, et surtout du native title depuis 1993, qui a créé énormément de conflits entre les groupes au nom de valeurs occidentales. C'est-à-dire qu'on ne reconnaissait pas la relation avec la terre et entre les gens dans le rapport au territoire. On a encouragé qu'ils se tapent dessus et qu'ils s'excluent. Dans une logique pas du tout de mise en relation. Et de ça, la plupart des aborigènes se méfient. Et la jeune génération ne veut plus de ça. Donc, voilà comment je vois les choses.